VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. L'Afrique du Sud va se retirer de la Cour pénale internationale. Conformément à la procédure, Pretoria a annoncé par écrit au secrétaire général de l'ONU son retrait de la CPI, a déclaré le ministre sud-africain de la Justice, Michael Masuta. Une décision qui prendra effet dans un an à compter de la date de réception de la lettre adressée mercredi aux Nations Unies, a souligné le ministre sud-africain lors d'une conférence de presse ce vendredi. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
L'Afrique du Sud avait exprimé il y a un an l'intention de quitter la CPI après les critiques émises à son encontre pour ne pas avoir exécuté un mandat d'arrêt lancé contre le président soudanais Omar Hassan al-Béchir, accusé de génocide et de crimes de guerre lors d'une visite de ce dernier en 2015. Plusieurs pays africains reprochent aussi à cette instance, créée par le traité de Rome en 1998, de concentrer essentiellement ses efforts sur l'Afrique. Le Burundi est le premier pays à quitter la CPI après un vote en ce sens de son Parlement la semaine dernière. Le président burundais Pierre Nkurunziza a confirmé cette décision par décret mardi, mais l'ONU n'a pas encore reçu la notification officielle.
Au Niger, le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, a fait état de défaillance après l'attaque djihadiste qui a coûté la vie à 22 soldats début octobre à Tazalit, dans la région de Taroua. Il s'est rendu personnellement hier sur place pour évaluer la situation. John Lindon.
Mohamed Bazoum a visité les trois abris où les militaires ont été tués ainsi que le nouveau dispositif sécuritaire renforcé autour du camp des réfugiés. Il a déclaré devant des habitants à Tazalit, des représentants des réfugiés et des chefs militaires que la célérité avec laquelle l'attaque a été exécutée indique que ceux qui sont venus étaient bien informés sur les habitudes, les comportements de la garde, des habitants du camp. Le lieu était repéré à l'avance, l'action a été rapide, il y a donc eu des défaillances, a déclaré le ministre nigérian de l'Intérieur. Pour Mohamed Bazoum, c'est la preuve qu'il n'y a pas eu de vigilance de la part de tout le monde, des soldats, des réfugiés et des habitants de Tazalit. Pour prévenir ce genre d'attaque, il a promis d'associer autochtones et réfugiés afin qu'ils fournissent le renseignement nécessaire aux forces de défense et de sécurité. Pour prévenir ce genre d'attaque, il a promis d'associer autochtones et réfugiés afin qu'ils fournissent le renseignement nécessaire aux forces de défense et de sécurité. Une attaque a été repoussée cette semaine contre la prison de haute sécurité de Kutukale où sont gardés plusieurs djihadistes. Et un citoyen américain travaillant dans l'humanitaire a été kidnappé la semaine d'avant dans la région de Tao.
Au Mali, grève dans le secteur de la santé. Depuis 5 jours, les médecins et les infirmiers ne travaillent pas. Les grévistes estiment que l'État malien refuse de satisfaire leurs revendications, comme l'intégration dans la fonction publique des contractuels et l'augmentation de diverses primes. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le manque d'affluence au niveau des guichets d'entrée du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré de Bamako a une raison. Jimmy Kanté, agent sanitaire au CHU Gabriel Touré de Bamako, membre du comité syndical.
Les revendications tournent essentiellement autour de 3 axes majeurs, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'avènement d'une bonne gouvernance dans les structures sanitaires et l'amélioration des conditions de soins, d'accueil et d'hospitalisation des patients qui arrivent dans nos structures sanitaires.
Les usagers des centres de santé public pense que les 5 jours sont trop. Un avis partagé par Jimmy Kanté du comité syndical du CHI Gabriel Touré.
Une journée de grève pour un travailleur socio-sanitaire, c'est excessif. 2 jours, c'est trop. Et 5 jours, c'est vraiment inadmissible. Ça, nous le reconnaissons. Mais comment voulez-vous, lorsque le partenaire en face n'est pas vraiment prêt à soulager sa propre population?
Après ces 5 jours de grève, le syndicat national de la santé et de l'action sociale va tirer le bilan et adopter la conduite à tenir. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, on s'est dit disposé à faire le dialogue avec les syndicalistes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le Maroc prend des dispositions pour son retour au sein de l'Union africaine que Rabat avait quitté à cause du dossier du Sahara occidental et de la RASD, la République arabe sahraoui démocratique. Selon Mustapha Tossa, journaliste et politologue, le Maroc veut revenir, mais il veut aussi préparer les conditions confortables, cohérentes, logiques et surtout politiquement pertinentes pour son retour. On l'écoute au micro d'Arzuma Compaoré.
Ce qu'on peut dire sur ce périple africain du roi du Maroc, Mohamed VI, c'est qu'il touche l'Afrique de l'Est pour la première fois. Le roi du Maroc entame une tournée qui va concerner le Rwanda, la Tanzanie et l'Éthiopie. C'est une région où le Maroc n'avait pas de relations stratégiques traditionnelles avec ces pays, donc c'est une première. Alors pourquoi c'est important maintenant? Parce que ça intervient dans un contexte où le Maroc a formulé une demande pour retrouver son siège au sein de l'Union africaine qu'il avait quitté en 1984 suite à la démission du Front Polisario. Maintenant, il veut revenir. C'est parce qu'on arrive à la fin de l'aventure séparatiste du Polisario. Il est question de trouver une sortie de crise. Le Maroc propose l'autonomie et il est en train de militer diplomatiquement pour que l'ensemble des pays africains adhèrent à sa thèse et donc le soutiennent dans la solution politique qu'il propose.
Quels sont les différents avantages, en tout cas, que le Maroc pourra apporter?
De nombreuses sociétés, de nombreuses entreprises utilisent le Maroc comme une espèce de hub pour distribuer leurs marchandises, leur expertise, leur savoir-faire et leur rayonnement sur l'ensemble du continent africain. Sur le plan religieux, alors que le continent subit de plein fouet le radicalisme et la montée de l'extrémisme et la montée de la pensée radicale de l'État islamique, le Maroc se propose d'apporter des solutions d'islam modéré. Le roi incarne l'islam modéré du juste milieu qui est capable d'éteindre la violence extrémiste.
Quelles sont les conditions que le Maroc devra remplir pour réintégrer l'Union africaine?
Le Maroc veut revenir, mais il veut aussi préparer les conditions confortables, cohérentes, logiques et politiquement pertinentes pour son retour. Il ne peut pas cohabiter avec une entité séparatiste non reconnue par la communauté internationale. Le Polisario n'est reconnu que par quelques États africains. Il n'est pas reconnu par l'ONU, il n'est pas reconnu par l'Union européenne, il n'est pas reconnu par le Conseil de coopération du Golfe, il n'est reconnu par aucune autre institution internationale. Donc il est illogique, inadmissible que le royaume du Maroc puisse être dans la même enceinte qu'une entité séparatiste.
Et selon vous, pourquoi les autres pays n'en font pas un problème? Les autres pays de l'Union africaine qui n'exigent pas en fait ce gel du Polisario?
L'Union africaine est divisée en deux parties, en deux grosses parties. Une partie qui accueille favorablement le retour du Maroc, qui encourage le retour du Maroc et qui est prête, sinon, à retirer la reconnaissance, du moins à geler l'appartenance du Polisario à l'Union africaine. Et une autre partie minoritaire, mais très activiste, pilotée directement par la diplomatie algérienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union africaine est devenue, le continent africain est devenu, depuis un certain temps, un théâtre de compétition entre le Maroc et l'Algérie. Les Marocains défendent leur intégrité territoriale, ne reconnaissent pas le séparatisme du Polisario, alors que les Algériens veulent absolument qu'il y ait une entité indépendante, le Sahara, au sud du Maroc. La bagarre, elle dure depuis 40 ans. Et ce qu'on voit en ce moment, ce ne sont que les péripéties d'un bras de fer diplomatique et historique entre deux puissances régionales que sont le Maroc et l'Algérie, avec comme théâtre de manœuvre et d'opération l'Union africaine et le continent africain.
Mustapha Tossa, journaliste et politologue. Présidentielle américaine 2016 maintenant, le républicain Donald Trump persiste et signe, dit qu'il reconnaîtra les résultats du scrutin que s'il gagne. Mais il se réserve le droit d'introduire des recours. Le point avec Timothée Donogmaï.
Le candidat républicain maintient ses accusations de fraude électorale sans fournir de preuves. Les autres républicains redoutent l'effet négatif de cette controverse sur leurs efforts pour préserver leur majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Dans une vigoureuse déclaration écrite, le sénateur John McCain de l'Arizona, candidat malheureux à la présidentielle de 2008 face au démocrate Barack Obama, martèle qu'accepter les résultats électoraux s'inscrit dans la tradition américaine. Dans diverses interviews télévisées jeudi, la directrice de campagne du candidat républicain, Kellyanne Conway, a fait savoir que Donald Trump a simplement mis en garde les Américains contre la fraude électorale. Il est disposé à accepter les résultats s'il n'y a pas de fraude généralisée, a-t-elle expliqué.
Et toujours concernant la campagne présidentielle, le troisième et dernier débat de la campagne a été suivi mercredi soir par quelque 76 millions d'Américains, selon les chiffres d'audience définitifs communiqués jeudi par l'Institut Nielsen. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.